Il vient d'être 18h au studio Kalangou. C'est l'heure du journal en français présenté par Rafika Taher. À présent, les titres de ce lundi 24 août 2020. Au Mali, la junte militaire au pouvoir et la CEDEAO auraient trouvé dimanche dans la soirée un compromis sur certains points, dont la mise en place d'une transition de 3 ans dirigée par un militaire. Les détails dans un instant. Un projet de décret déterminant les modalités d'authentification des signatures des électeurs soutenant les candidats aux prochaines élections a été adopté lors du Conseil des ministres le jeudi dernier. À suivre les explications d'un constitutionnaliste dans ce journal. Le droit au loisir des enfants, un droit défendu par la Convention internationale des droits de l'enfant et la Charte africaine relative à ces droits. C'est la partie magazine de ce soir. 3 ans de transition dirigée par un militaire et la libération prochaine du président malien déchu et de son premier ministre sont les points de compromis qu'il y a eu hier dimanche entre la délégation de la CEDEAO et la junte militaire qui a pris le pouvoir au Mali le 18 août dernier. Boubacar Boukoum, analyste politique au Mali et membre du groupe du Centre d'études stratégiques, pense qu'il n'y a aucun problème par rapport à la durée de la transition si le contenu proposé par les militaires est pertinent. Il est joint au téléphone par Tarnan Foudey Ahmed.
Les jeunes putschistes, entre guillemets, que nous avons aujourd'hui sont des intellectuels et qu'ils comprennent les enjeux géopolitiques et asseoir une base de transition d'une nouvelle ère démocratique. En fait, c'est de ça qu'il s'agit.
La junte qui a pris le pouvoir aurait demandé une transition de 3 ans. Cela, si ça s'avère vrai, ça ne tend pas vers une caporalisation du pouvoir par des militaires?
Non, je ne le pense pas. Ce qui est important de comprendre, ce n'est pas le timing qui pose problème. C'est le contenu qu'on va mettre dans cette transition. Maintenant qu'il négocie avec la communauté internationale et qu'on puisse filtrer 2 ans, 3 ans, 1 an, moi je pense que c'est pas ça qui est le plus important. Nous, on s'intéresse plutôt au contenu de ce qui va être fait pendant cette transition.
À Ayeru, ville frontalière avec le Mali, plusieurs bus et camions de marchandises sont bloqués à la douane. Pour cause, la fermeture des frontières maliennes avec celles des autres pays de la CEDEAO, dont le Niger. Et ce, suite au coup de force militaire au Mali du 18 août 2020. Les transporteurs de marchandises s'inquiètent pour leurs produits qui risquent de s'abîmer, a déclaré Mohamed Maïga, conducteur de camion. Il est au micro de notre correspondant Abdoulaye Amadou.
Je suis chauffeur sur l'axe Gao-Niamey. La fermeture des frontières va beaucoup impacter nos activités, particulièrement les transporteurs des produits frais et les passagers. Les autorités pouvaient fermer la frontière aux véhicules et bus, mais quand même pas aux marchandises. Parce que parmi les marchandises que nous transportons, il y a des produits frais qui sont périssables, tels que le poisson, le chou, les pommes de terre, les bananes. Donc tous peuvent se gâter et dire que nous sommes seulement au 3e jour de l'application de la fermeture de frontières, et déjà on commence à sentir les conséquences. Nous demandons aux autorités de revoir cette décision.
Le Conseil des ministres du jeudi 20 août dernier a examiné et adopté le projet de décret déterminant les modalités d'authentification des signatures des électeurs soutenant les candidatures indépendantes aux prochaines élections de 2020-2021. Selon le constitutionnaliste Dr Amadou Hassan Boubacar, cette pratique n'est pas nouvelle et que les signatures des électeurs soutenant une candidature indépendante sont authentifiées par les officiers ministériels qui sont aussi tenus de vérifier l'effectivité de l'inscription des signataires sur la liste électorale.
Quelqu'un qui veut être candidat aux élections présidentielles doit apporter la preuve que sa candidature est soutenue par un certain nombre d'électeurs qui sont inscrits sur la liste donc 2000. Maintenant, pour le faire, il va falloir justement requérir la signature, puisque si on n'exige pas une authentification des signatures, quelqu'un peut venir prendre des noms comme ça, juste à poser ou même chercher la liste électorale, alors que les personnes n'ont pas véritablement donné leur soutien à sa candidature. S'agissant des élections législatives et locales, la candidature indépendante est également admise, mais cette fois-ci, c'est juste 1% des électeurs inscrits sur la liste qu'il faut apporter. Donc, l'authentification de la signature se fait de la même façon qu'il y a un certain nombre d'officiers ministériels qui authentifient les signatures, notamment les notaires qui sont habilités au regard de la loi de leurs compétences à faire des actes authentiques.
C'était Dr Amadou Hassan Boubacar, toujours joint au téléphone par Mokhtar Hamadou. Interdiction de la vente et de la consommation de la chicha par les autorités communales du département de Bindingoni, région de Tawa. Selon l'arrêté du jeudi 20 août 2020 de la ville de Koni, tout contrevenant pris la main dans le sac sera arrêté et amendé. Pour plus de précisions, écoutons le maire de la commune urbaine, Dr Soumaïla Ousmane, au micro d'Assoumane Moussa Arzika.
Le tabac qu'ils appellent les chichas. Aujourd'hui, il est difficile de suivre une voie où tu ne trouveras pas des jeunes en train de consommer le chicha. C'est donc au vu de l'ampleur que prend cette pratique ici à Koni que nous nous sommes dit qu'il est plus qu'impératif de prendre une mesure le plus rapidement possible pour arrêter cela. Nous avons décidé de prendre un arrêté pour dire que désormais, tous les clubs de consommation de chicha sont fermés. En plus, la vente et la consommation du chicha est formellement interdite dans toute la ville de Koni et que tout contrevenant à cette mesure sera arrêté et puni conformément aux dispositions prévues par la loi.
Comment régler les multiples différends qui opposent les propriétaires terriens de la ville d'Agadez? Le président de la délégation de cette ville a trouvé la solution. Une nouvelle taxe d'identification des parcelles a été initiée afin de permettre à tout propriétaire de parcelles de régulariser sa situation. Pour Dr Boukari Maman, l'assainissement du foncier permettra à la ville de voir clair et d'éviter des conflits. Le président de la délégation de la ville d'Agadez, au micro de Moussa Maman.
L'assainissement du foncier au niveau de la commune, c'est vraiment un problème que nous avons innové par rapport à l'identification des parcelles. Aujourd'hui, on se trouve avec des gens qui achètent des parcelles, mais des parcelles sont vendues à 2-3 personnes. Et donc, on se retrouve avec des problèmes avec la commune, avec les particuliers au niveau de la justice, et la justice nous renvoie toujours ces gens. Alors, nous avons pris nos responsabilités au niveau de la commune. Nous avons dit que l'identification des parcelles, c'est nous qui l'avons fait. Ce service-là, il a un coût. Les 400 mètres carrés coûtent 200 000 francs, mais on a dit qu'on a même rabaissé, donné 50 000. 50 000 francs, ça vous appartient. Et on va vous faire votre taxe.
Le Niger ne doit plus importer du riz à partir de 2023. Déclaration faite par le président de la République, Mahamadou Issoufou, en juillet 2019, en marge de la 19e réunion du comité interministériel d'orientation de mise en œuvre des programmes de l'initiative 3N. Selon le président de la coopérative Rizicole de Kirkisoy et membre de la Fédération des unions de coopératives des producteurs du riz du Niger, les conditions ne sont pas encore réunies pour l'atteinte des objectifs de 2023. Boukari Koranga au micro de Mokhtar Hamadou.
Comme vous le savez, le fleuve est ensablé. Donc si le sable prend de la place dans le fleuve, il faut rehausser la digue. Donc sans ce rehaussement-là, il y aura toujours des problèmes dans les aménagements hydro-agricoles qui se trouvent tout au long du fleuve, d'Ayoru à Gaya. Parce que ce n'est pas notre périmètre seulement qui est menacé. Il y a celle de Karegourou, Namardé, Lata, tout ça là, c'est des périmètres qui se trouvent au bord du fleuve. Donc sans ce rehaussement des digues, il y aura toujours ces problèmes répétitifs. Beaucoup de travail reste à faire pour dire que tous ces anciens aménagements doivent être réhabilités et créer d'autres aménagements. Pour le moment, rien n'est fait d'abord. Il ne reste que 3 ans. Si rien n'est fait, en tout cas, c'est très difficile que d'ici l'an 2023, le Niger n'importe pas du riz. Puisqu'il y a beaucoup de choses à faire avant qu'on atteigne ces objectifs-là.
5 commerçants, dont 3 femmes, ont été enlevés de la nuit du jeudi 20 au vendredi 21 août 2020 à Dogondouchi, dans la région de Dosso, près de la frontière nigériane. Ces personnes revenaient de Sokoto au Nigeria. Quand les ravisseurs les ont pris, ont déclaré les familles des victimes. Les ravisseurs réclament le paiement d'une rançon de 1 300 000 francs CFA par personne. L'un d'entre elles a été libéré le samedi après paiement de cette rançon. Selon les familles des personnes enlevées, nous rapporte notre correspondant Abdelaziz Dayouma. Selon les résultats des examens virologiques publiés hier par le ministère nigérien de la Santé publique, aucun cas positif au COVID-19 n'a été enregistré au Niger sur deux tests réalisés le même jour. Ainsi, à la date du 23 août 2020, 11 644 personnes ont été testées à la COVID-19, dont 1172 sont déclarées positives, 69 décès, 19 en cours de traitement et 1084 guéris selon l'autorité sanitaire du Niger.
Ma chérie, qu'est-ce qui t'arrive? Je te trouve très soucieuse.
Donc tu n'as pas entendu la nouvelle?
Mais c'est quoi cette nouvelle qui t'angoisse tant?
La maladie là qui fait des ravages dans le monde entier, elle est venue chez nous.
Tu parles de coronavirus?
Mais oui.
C'est vrai, la maladie, elle est bel et bien arrivée chez nous. Mais tu ignores qu'on peut bien se prévenir?
C'est une bonne nouvelle. En faisant comment?
Eh oui, les spécialistes de la santé conseillent de vous laver régulièrement les mains à l'eau et au savon ou les désinfecter avec un gel hydroalcoolique. Éternuez ou toussez dans les creux de votre coude, puis lavez-vous les mains à l'eau et au savon. Il faut garder au moins un mètre de distance entre vous et les autres personnes. Évitez de toucher les yeux, le nez et la bouche. Évitez tout contact direct avec les animaux vivants. Et si cela est impossible, lavez-vous les mains après le contact. Il faut bien cuire les aliments avant de les manger. Nettoyez les surfaces et les ustensiles après usage. Il faut éviter les déplacements non essentiels et éviter aussi tout regroupement.
Tout? Et le mariage de ma fille?
Eh ma chérie, pense à ta santé et à celle de ta famille.
Je te remercie beaucoup pour cette nouvelle que je vais d'ailleurs partager avec toutes les voisines.
Ceci est un message du studio Kalangou en collaboration avec le ministère de la Santé publique du Niger.
Et maintenant, place à la partie magazine. Le droit au loisir fait partie des principaux droits de l'enfant consacrés aussi bien par la Convention internationale sur le droit de l'enfant que par la Charte africaine relative aux droits de l'enfant. Ces textes garantissent à l'enfant le droit de s'épanouir, de participer à plusieurs activités récréatives de son âge. Cependant, pour que ce droit soit effectif, les États ont l'obligation de créer des espaces de loisir à toutes les catégories d'enfants, notamment ceux en situation de handicap, ceux victimes de catastrophes naturelles ou de conflits. C'est ce que souligne Sidiku Moussa, le président de la coalition des organisations nigériennes des droits de l'enfant, au micro de Balkissa Hamidou.
Plusieurs instruments juridiques garantissent à l'enfant le droit au repos et au loisir. Qu'est-ce qu'on entend concrètement par le droit au loisir?
Le droit au loisir fait partie des principaux droits qui sont reconnus à l'enfant, tant par la Convention relative aux droits de l'enfant que par la Charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant. Le repos, comme le nom l'indique, c'est vraiment un temps d'inaction, mais également un temps où l'esprit de l'enfant, en cas, doit être égayé à travers un certain nombre de loisirs. Ça peut être des jeux, ça peut être des visites, ça peut être des congés, ça peut être en tout cas des sorties un peu partout. En tout cas, ce qui sort de l'ordinaire de l'enfant, parce que ça permet en tout cas à l'enfant de se reposer, mais aussi ça lui permet aussi de se cultiver. Un des principes fondamentaux d'ailleurs des droits de l'enfant, on parle bien de la survie et développement de l'enfant. Pour que l'enfant puisse survivre et bien se développer, eh bien les loisirs font partie intégrante de ce processus-là. Mais également, quand on parle par exemple de la question de la participation de l'enfant, qui un des principes fondamentaux aussi des droits de l'enfant, ça permet à l'enfant de manière très libre de se conduire et pendant un temps, oublier en tout cas son quotidien pour s'adonner à ça.
Et quelles sont les obligations qui incombent aux États afin que le droit au loisir soit une réalité aussi bien pour les enfants en situation de handicap et aussi des enfants qui sont dans des zones de conflit ou victimes de catastrophes naturelles?
Je commencerai par les enfants qui sont dans les zones de conflit ou de catastrophes naturelles. Ouais, très généralement, même dans les camps de manière spécifique, on réserve des espaces à ces catégories d'enfants-là qu'on appelle souvent les espaces de loisirs. Ça permet à l'enfant de se déstresser, d'oublier effectivement cette peur-là et d'avoir beaucoup plus envie à la vie et de regarder aussi dans l'avenir. En parlant par exemple des enfants en situation de handicap, le principe de non-discrimination est un principe cardinal des droits de l'enfant. C'est-à-dire que nonobstant l'handicap d'un enfant, il doit également être dans les mêmes conditions avec les mêmes droits que les enfants normaux. C'est-à-dire que dans le cadre de ces loisirs, là, on doit aussi avoir des espaces qui sont adaptés à ces enfants-là. Et les États ont l'obligation d'adapter les loisirs et les jeux à chaque catégorie d'enfants pour que tous les enfants se sentent intéressés, qu'on ne sent pas l'exclusion, si vous voulez.
C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivie.